quand même. Mais pour elle, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait.
J'espère que ça peut se multiplier dans beaucoup de villes, mais je pense que les Juifs de France ont des chances, en tout cas dans nos régions, d'être en paix. Et la preuve ce soir, c'est que vous êtes là, les plus fidèles, hein, toujours. Et on va parler de choses plus joyeuses, parce qu'on va rentrer dans le jour de Dieu, les jours, on va même dire, samedi et dimanche. Il a deux jours. Donc, effectivement, j'ai pris le micro parce que c'est d'abord le Shabbat, ce qui est logique, hein. C'est le samedi, puis il y aura le dimanche, pas parce que je suis une femme, peut-être parce que effectivement, on est les plus vieux dans notre monde juif. Alors, je vais commencer par une petite histoire mignonne qui apparaît dans Bereshit Rabba. Lorsque le monde fut créé, le Shabbat dit au Saint, béni soit-il, souverain de l'univers, tout être vivant créé a son conjoint et chaque jour a son compagnon. Sauf moi, le septième jour, je suis seul. Et Dieu répondit, le peuple d'Israël sera ton compagnon. Avant de commencer mon exposé, je voudrais vous lire ce que il se dit le jour, un des jours d'ouverture de Shabbat, où nous lisons dans la Torah un chapitre qui s'appelle Vayakhel. Et vous allez voir, bien sûr, ça va peut-être être répétitif un peu avec ce que je vous dirai, mais je voulais vous le lire parce que c'est comme une forme de prière. Ça concerne en tout cas une phrase qui est donnée dans ce long texte que l'on lit. Pendant six jours, tu feras ton travail et le septième jour, vous aurez un jour sanctifié. C'est le Shabbat pour l'Éternel. La Torah nous dit que le septième jour, Dieu acheva son œuvre. Nos maîtres en concluent qu'en ce jour, qui est un avant-goût du monde à venir, il y eut création de la tranquillité, de la sérénité, de la paix et du repos. Ce n'est pas Israël qui a gardé le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui a été le gardien d'Israël. Si nous gardons le Shabbat, Dieu nous gardera. C'est à jamais un signe entre Dieu et nous. Durant six jours, on travaille et on s'occupe de ses affaires. Le septième jour, on se repose. Pendant six jours, on expédie ce que le travail quotidien exige de nous. Le septième jour, on obéit au commandement du prophète. On apprend à être silencieux, à écouter la voix des autres et celle de Dieu. Et tout se repose, le maître de donner des ordres, les serviteurs d'être attentifs à cette voix qui ordonne. Le repos pénètre jusqu'à eux, la maison est libérée des bruits du travail, elle est consacrée au repos. Éternel notre Dieu, je te remercie pour ce précieux don du Shabbat, pour le repos qu'il apporte à mon corps et la tranquillité qu'il prodigue à mon âme. Pour les possibilités qu'il m'offre de me rapprocher des autres, pour l'invitation à la prière et à la louange de ton nom, pour l'occasion de me retrouver et de me tourner au-dedans de moi, pour écouter mon cœur et mon âme et réaliser que je me tourne vers toi, mon Créateur. Pendant cette journée emplie de calme et de sainteté, je considère avec plus de clarté les joies et les exigences de la vie. Mes jugements prennent en compte les tiens. Je peux juger le monde qui m'entoure et ses demandes. Donne-moi la ferme volonté d'illuminer mon existence avec cette clarté qui émane de cette journée que tu as consacrée au repos et au rapprochement de tes créatures avec toi. Ça vous donne une idée très large de cette sorte de prière que nous disons, de réflexion, de méditation surtout, que nous lisons ce jour-là, lorsque c'est cette paracha Vayakhel. Alors, maintenant, je vais passer un petit peu plus scolaire, peut-être, je ne sais pas, pour expliquer, vous allez retrouver les choses, bien sûr. Étant accomplis les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment, Dieu acheva au septième jour son ouvrage et il cessa au septième jour tout ce qu'il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour il cessa son œuvre pour la laisser en devenir. Genèse 2:1-3. Les enfants d'Israël observent le Shabbat de génération en génération, en pacte avec l'Éternel. Dans la suite des âges, ce sera un symbole entre moi, c'est-à-dire Dieu, et eux, attestant l'œuvre de la création du ciel et de la terre en 6 jours et le repos du septième jour. Ceci dans Exode 31, 16-17. Si tu cesses de fouler aux pieds le Shabbat, de vaquer à tes affaires au jour qui m'est consacré, si tu appelles le Shabbat délice, voué à la sanctification de l'Éternel, que tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne t'occupant pas de tes affaires et en ne profanant pas de paroles vaines, alors tu te délecteras dans l'Éternel et je te ferai se faucher sur les hauteurs de la terre et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel l'a dit. Isaïe 58, 13, 14. C'est en célébrant ce jour, en inscrivant son parfum de sainteté, en insérant un moment d'arrêt au milieu de l'activité séculière, que le peuple juif a pu survivre et garder son identité. Ce n'est pas Israël qui a gardé le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui a gardé Israël. Les thèmes centraux de la théologie juive, création, révélation, rédemption, sont intimement liés à la liturgie et à la pratique de cette journée. À travers les prières que nous prononçons et les actes que nous accomplissons, ou que nous nous abstenons d'accomplir, nous conférons au Shabbat un caractère unique, sa signification, et nous en faisons une source de joie. Le Shabbat est le temps de Dieu, créateur de l'univers et fondateur du peuple juif, du peuple d'Israël. Souvenir de la création du monde, souvenir de la libération de l'esclavage d'Égypte. En Exode 28, commence le terme « Zahor », « souviens-toi ». Dans le Deutéronome 5:12, le commandement de Shabbat est introduit par « Chamor »,« Chamor »,« garde ». Donc c'est à la fois « souviens-toi » et « garde ».« Souviens-toi » est de l'ordre du savoir et du spirituel, alors que « garde » est de l'ordre de la réponse pratique et active. Le premier prescrit le repos comme acte de sanctification, alors que le second nous invite à cesser notre intervention dans le monde. Le Shabbat nous renvoie aux êtres et non aux objets, aux idéaux et non aux images. Selon la tradition, le jour du Shabbat, nous recevons une âme supplémentaire qui nous permet d'apprécier encore mieux ce temps béni, la chaleur de l'amitié et l'esprit de famille. C'est une journée qui nous dirige vers le futur. Une journée d'espérance dans l'attente de la résiliation des temps réalisation, des temps messianiques qui seront un Shabbat éternel. Alors, comment vit-on ce Shabbat? Comme on l'a dit, les 6 jours de travail nous invitent à nous préparer au Shabbat. Mais dès vendredi soir, la maîtresse de maison met sa maison en ordre, prépare des repas dignes de festin et permet aux siens, ainsi qu'à elle-même, de s'embellir pour accueillir le Shabbat. Il sera dit Shabbat Shalom à tous ceux que l'on aime. Et on s'envoie même plein de textos pour dire Shabbat Shalom. Shabbat est un nom féminin en hébreu, d'où l'accueil de la fiancée, chant de tous les Shabbatot. À la synagogue, on va se lever, chanter cela, un grand chant, pour accueillir la fiancée. Et on va mettre, même en dernier moment, la dernière belle phrase, on va se tourner vers la porte et on va accueillir la fiancée. Lorsque tout sera en ordre, au coucher du soleil, la famille réunie, la maîtresse de maison allumera 2 bougies, 2 lumières pour Shabbat. Chacune correspond l'un des termes de référence à « souviens-toi » le Zahor et à « pratique » le Chamor, contenu dans les 2 versions du Décalogue, Exode 28, Deutéronome 5-12. Ce temps-là va être sanctifié en le singularisant des autres jours de la semaine, autre façon de vivre, autre conversation, etc. On ne parlera pas à faire, hein, on parlera de surtout pas tout ce qui peut attrister. Vous ferez un Shabbat de délices, c'est un Oneg Shabbat, cette joie bien particulière de ce jour. Pas de travail, s'abstenir de certaines activités, même de prévoir certains événements, ne pas faire d'achat, pas de travaux ménagers, pas de mariage, mais des bars ou des bat mitzvahs se font le samedi matin à la synagogue. Et il est possible d'interrompre un temps de deuil ce jour-là, mais de vivre l'hospitalité et l'aumône avant l'entrée dans le Shabbat. Dire le kiddush, c'est-à-dire la sanctification du vin, source de joie, proclamation de la sainteté du Shabbat. Puis dire le motzi, c'est la bénédiction des chalot, c'est-à-dire des pains de Shabbat, vous en avez peut-être vu déjà, qui sont des sortes de grandes brioches tressées que la maîtresse de maison fait, et donc on fait aussi la bénédiction. Ça peut vous rappeler des choses, n'est-ce pas? Moi j'ai vu ça avec les amis protestants, quand il y a ce moment où vous donnez le pain, le vin, pour une autre raison, certes, mais il y a des choses quand même intéressantes. Donc, ils sont doubles car ils rappellent la double portion, où il y a 2 chalot, car ils rappellent la double portion de man que les Hébreux recevaient le vendredi dans le désert. Ça, c'est Exode 16, 22. Les enfants seront bénis, ainsi que tous les convives, car il y a fête, le repas dès le vendredi soir, au retour de l'office fait à la synagogue. Repas agrémenté, différent des repas de la semaine, puis prière à la fin du repas, le Birket Hamazon. Toujours la prière est faite à la fin du repas. Le samedi aura la même règle de vie. Aller à la synagogue, un rouleau de la Torah sera sorti, il sera lu une section ou paracha, suivi d'une haftara qui est la lecture d'un passage des prophètes. Certaines personnes sont appelées à cette lecture, c'est une bénédiction. À la fin de l'office, le kaddish sera dit en souvenir d'une personne décédée qui sera nommée. Au retour de la maison, un autre repas tout festif sera prêt. Dans l'après-midi, certains iront voir des amis, rendre visite aux malades, lire des passages de la Torah, de ce Shabbat, et les étudier éventuellement. Lorsque trois étoiles apparaîtront ou apparaissent dans le ciel, il sera dit la Havdala, qui est la prière de séparation. C'est le samedi soir où, effectivement, on utilisera une coupe de vin, une boîte d'épices, une bougie de préférence tressée pour faire des bénédictions de cette fin de Shabbat et se préparer à quitter ce temps de délices. Alors, on se souhaitera Shavua Tov, c'est-à-dire bonne semaine. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Oui, Père Alain me demande pour les questions, on fera tout après. Qu'en pensez-vous, hein?
Vaut mieux, bien sûr.
Voilà. Bien, donc, voilà, le sabbat, on a pris congé avec le sabbat, et on va dire bonjour au dimanche. Voilà. Alors, peut-être simplement pour faire une transition avec l'exposé d'Eliane que nous venons d'entendre, je dis quelques mots de l'attitude de Jésus par rapport au sabbat. Puisqu'on peut dire que pour lui, d'après ce qu'on lit dans les évangiles, ce sabbat est un jour de la plus haute portée, qu'il a mis en lumière d'ailleurs avec l'autorité qu'il a revendiquée. Fils de l'homme et maître même du sabbat. Non pas pour mettre en pièce ce jour saint, mais pour plutôt en rappeler le sens. Alors, dans les évangiles, il y a 56 mentions du sabbat, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ce jour-là, d'une façon ou d'une autre. Et notamment, dans ce jour de sabbat, on raconte nombre de guérisons de Jésus ce jour-là. Et on nous dit aussi, dans un texte de Saint-Luc, chapitre 4, versets 16 et suivants, que Jésus a participé à Nazareth, à la synagogue, à la réunion de la synagogue. On lui a donné un passage à lire, il a ouvert le livre, il est tombé sur un passage d'Isaïe, « Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle », voilà. Puis ensuite, il a refermé le livre, puis en disant, c'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole. Mais ce qui est important, c'est qu'on dit, il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. Donc c'est quelque chose, pour lui, ça fait partie de la vie, de sa vie courante, si on peut dire. Alors, en opérant des miracles de guérison volontairement, au risque de se faire critiquer, justement, le jour du sabbat, il me semble qu'il met en valeur des choses qu'on vient d'entendre, hein, des enracinements de cette institution du sabbat, c'est-à-dire le rappel, la mémoire de la création, d'une part, mais aussi du salut, de la libération d'Égypte. Voilà. Par exemple, dans le récit de la guérison d'une femme courbée le jour du sabbat, donc on la critique, pourquoi tu fais du travail, entre guillemets, le jour du sabbat. Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée aussi 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Donc c'est ce lien avec un jour de libération, si on peut dire, de mémoire du salut. Voilà, c'est un petit rappel. Voilà. Alors, je fais un exposé, je vais dire, il y aura quatre points. Du sabbat au dimanche, comment ça s'est passé. Le jour du Seigneur, que nous on appelle le dimanche, est-ce qu'il faut le considérer comme un premier jour, un troisième jour ou un huitième jour? Il y a tout ça. Et puis le troisième point, le dimanche est une obligation, point d'interrogation. Quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on demande aux chrétiens par rapport au dimanche? Et puis à la fin, un petit mot sur le vécu actuel du dimanche. Alors, ce que je vais dire, c'est de la part d'un catholique. Il est possible que, d'ailleurs, ce sera bien qu'à la suite de notre débat, d'autres témoignages puissent être donnés, d'autres confessions chrétiennes qui vivent peut-être pas le dimanche exactement comme nous, les catholiques. Voilà. Alors, du sabbat au dimanche, au début de l'Église, parce que cette transition, elle a pris un certain temps, pas très long, mais quand même. Donc, dans les évangiles, il y a une unanimité pour situer le constat de la résurrection de Jésus le lendemain d'un sabbat. Et ce sabbat qui était dans la proximité de la fête de la Pâque, le Pessah. Et même l'évangile de Jean précise que ce sabbat en question, cette année-là, c'était la Pâque était tombée le jour du sabbat. Voilà, donc c'était un jour. Il y avait une sorte de superbe. Une accumulation de signification pour eux. Alors, dans le cadre du rythme hebdomadaire qui semble le déroulement de l'année, vous avez compris, ça revient tous les 7 jours. Voilà, et ça, on reste toujours dans ce rythme-là. Bien, du coup, le jour de la résurrection, c'est le premier jour de la semaine ordinaire, on peut dire. C'est ainsi que les évangiles le nomment. Quand il parle de la résurrection, le premier jour de la semaine. Alors, je vous ai mis en annexe dans la feuille que je vous ai distribuée, au verso, il y a les trois premiers textes qui concernent justement le récit de la résurrection, où on parle du sabbat, et quand le sabbat fut passé, Marie Magdala, etc. Les disciples d'Emmaüs, c'est aussi le lendemain du sabbat, le soir ce même jour. Le premier de la semaine, et on dit là le premier jour de la semaine. Voilà. Donc, on insiste bien sur cette dimension-là, premier jour de la semaine. Alors, au début de l'Église, comme l'essentiel des membres de l'Église étaient des Juifs, qui avaient reconnu le Christ, bien les chrétiens continuaient évidemment de fréquenter la synagogue, de respecter le repos du sabbat, en fidélité aux prescriptions de la Torah. Mais on lit déjà dans les actes, dans le livre des Actes des Apôtres, et dans la première lettre aux Corinthiens, je vous l'ai cité là, bien que les premiers chrétiens avaient mis en place, parallèlement au sabbat, une pratique particulière. Ils se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour prier, rompre le pain, se soucier du partage avec les plus nécessiteux. Et c'est par exemple le texte de Corinthiens. Vous suivrez les règles que j'ai données. Le premier jour de chaque semaine, chacun mettra de côté chez lui ce qu'il aura réussi à épargner pour permettre une collecte pour l'église de Jérusalem, dans le cas. Donc les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine. Cette réunion, dans les débuts, elle avait probablement lieu même dès le soir même, la veille, comme on le fait pour le sabbat, le soir après la fin du sabbat, après le coucher du soleil, puisque on compte les jours à partir de la veille. Il y a un soir, il y a un matin, pas le contraire. Donc on voit que par exemple dans... Il y a un récit des Actes des Apôtres où Paul a prolongé jusqu'à minuit un discours. Alors, c'était justement la transition entre le sabbat et le dimanche. Et il y a même l'histoire qu'un jeune qui l'écoutait assis au bord d'une fenêtre s'est endormi et puis il a basculé, il est mort. Mais saint Paul l'a ramené à la vie. Voilà. Donc, l'important, en tout cas pour ce qui est des premiers chrétiens, c'est qu'on se réunit ce premier jour de la semaine à cause du Christ ressuscité, mais on n'oublie pas sa mort, rappelée par la fraction du pain, et sa mort, c'était avant. Une autre attestation aussi, c'est le livre de l'Apocalypse, qui peut dater des années 95, Là, on voit qu'il y a déjà une installation solide dans la pratique chrétienne d'un jour spécialement réservé à la célébration, à l'assemblée. On se rassemble pour célébrer le ressuscité. Et ce jour, il a un nom dans l'Apocalypse qu'on appelle le jour du Seigneur. Kyriake Emera, pour traduire jour seigneurial, ou si on parle latin, dies dominicus, qui a donné en français dimanche. Donc ça, cette appellation dimanche, elle vient, on la trouve d'une certaine manière dans l'Apocalypse, le jour du Seigneur, le jour seigneurial. Alors, on peut d'ailleurs, une petite remarque, hein, dans les noms en français de chaque jour de la semaine, bien, le dimanche, c'est le seul jour, dans l'étymologie, qui ne renvoie pas aux planètes divinisées du monde latin, puisque lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, voilà,
c'est une
planète, et puis samedi, par contre, il m'a semblé que ça faisait allusion au sabbat. Dans l'étymologie, il faudrait revérifier.
C'est Saturne. C'est Saturne, samedi.
Oui, en anglais ou en français, je ne sais pas.
Si, pareil, c'est Saturne.
J'ai regardé dans mon gros dictionnaire en 10 volumes, on me dit que c'est plutôt, ça remonte au sabbat. Bon. Mais comme je voulais justement dire que les anglophones...
Oui, c'est ça.
Étymologie. Vient du latin, sabbat
dies,
jour du sabbat, samedi.
Ça me semble bien. Mais par contre, les anglophones, les germanophones, eux, ils ont gardé pour le dimanche un nom qui renvoie aux planètes, puisque c'est le jour du soleil, solidé, et Sonntag en allemand. Par contre, les anglophones, eux aussi, pour le samedi, ils ont pris une planète, Saturday, là je pense que c'est Saturne.
Ouais, voilà. C'est ça.
Voilà, donc ça c'est un petit détail. Ça veut dire que nos jours de semaine, ils plongent dans ces traditions, trois traditions différentes finalement. Latine, juive, chrétienne. Alors, pour prolonger l'histoire des débuts du dimanche, un peu au-delà de la période du Nouveau Testament, puisque je viens de citer l'Apocalypse, un peu les limites extrêmes, on peut citer deux repères. Il y a un passage d'une lettre d'Ignace d'Antioche, vers 100, qui atteste que pour les chrétiens, qui venaient du judaïsme pourtant, pour la plupart, ils n'observaient plus le sabbat, à un certain moment, mais le dimanche. Plus tard, un texte de Justin, qui est mort, que je vous cite, Justin, qui est donc mort à peu près en 166, donc c'est déjà un peu plus loin, là, il fait une description très détaillée, que vous pourrez lire, de ce qui est vécu le dimanche. Voilà, donc là, il y a une pratique bien établie de l'assemblée dominicale. Alors là, vous voyez, c'est le jour du soleil. Il donne cette expression-là. Ce jour-là, c'est le jour du soleil, avec les ingrédients que nous connaissons, mais qui viennent pour une part de la tradition juive. Donc il y a des lectures bibliques, plusieurs, la fraction du pain, une collecte de solidarité avec les gens dans le besoin. Alors qu'on fait ce jour-là, pas la veille, mais il y a quand même le même esprit. Donc, je vous encourage à lire ce beau témoignage de Justin, oui, qui nous ramène au IIe siècle, et qui est bien en détail. Il est question à la fin du jour de Saturne, par exemple, aussi. Et puis, l'historien Pline, le jeune, de son côté, c'est plutôt vers 110, note que les chrétiens se réunissent à jour fixe dès l'aurore. Pas quel jour, mais il a repéré qu'il y avait un jour pour les chrétiens. Voilà, ça c'est le petit historique. Alors, deuxième point, ce jour du Seigneur, tour à tour, c'est le premier jour, un troisième jour, un huitième jour, derrière ces manières de parler, il y a ça dit quelque chose du dimanche. Voilà, c'est-à-dire, on peut poser la question, est-ce que c'est un accomplissement ou un commencement, le dimanche qui accomplirait le sabbat, qui mène vers autre, qui ouvre vers autre chose, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'Église, elle a adopté le rythme hebdomadaire de ses racines juives, puisque c'est aussi, ça revient toutes les semaines, peut-être, même si ce n'est pas le même jour. Deuxièmement, certains aspects de la liturgie, de l'aspect festif du sabbat, il a été repris aussi dans le dimanche. Et puis, donc la liturgie synagogale, le choix des lectures qui s'éclairent l'une et l'autre, bon, donc on l'a aussi repris. Mais évidemment, le dimanche est investi de significations totalement nouvelles, comme on l'a vu, mais c'est surtout le fait qu'il s'enracine dans, on pourrait dire, le souvenir, la mémoire de la résurrection du Christ. Et donc, dans ce sens-là, comme le dit le Nouveau Testament, c'est vraiment le premier jour, non seulement de la semaine, auquel cas ce serait un jour ordinaire qui commence, mais c'est un premier jour d'un temps nouveau, puisque la résurrection, elle inaugure en quelque sorte le début de la fin des temps, je veux dire. Et donc, et puis ensuite, par contre, dans la profession de foi de l'Église que Paul cite, il dit le Christ est ressuscité le troisième jour. C'est bien compliqué. Le premier jour étant celui de sa mort, le deuxième celui de son descente aux enfers, comme on dit, c'est-à-dire un moment où le Christ va rejoindre tous les morts pour les sortir vers la vie. Le troisième jour, celui de sa résurrection, mais la signification de ce troisième jour, elle est en lien avec Osée, chapitre 6, verset 2, et puis surtout le targum de ce texte-là, où il est question du le troisième jour, le Seigneur nous a frappés, le troisième jour, il nous guérira. C'est ça que Osée dit. Et je crois que le targum, il parle du jour de relèvement, c'est-à-dire de la résurrection. Donc c'est aussi un troisième jour. Puis c'est le huitième jour, dans le sens où c'est un petit peu hors cadre, si vous voulez. C'est l'aube d'une nouvelle création, d'un homme nouveau. Et ce huitième jour, il est repris dans l'architecture. Alors, je vous cite ici un passage du pape François, c'est de lui, en lisant ce passage que je l'ai appris. Voilà ce qu'il dit. « Pendant longtemps, les chrétiens ont construit les fonts baptismaux en forme octogonale, 8. Et aujourd'hui encore, nous pouvons admirer de nombreux baptistères anciens, par exemple à Rome, Saint-Jean-de-Latran, un grand bâtiment qui est à côté de la basilique. Cela indique que dans les fonds baptismaux, un huitième jour est inauguré, le jour de la résurrection, le jour qui dépasse le rythme habituel marqué par l'échéance hebdomadaire, ouvrant ainsi le cycle du temps, la dimension de l'éternité, à la vie qui dure pour toujours. Tel est le but vers lequel nous tendons dans notre pèlerinage terrestre. » Voilà, donc ça c'est pour le huitième jour. Et puis même, cette désignation « jour du Seigneur », « dies dominicus », renvoie à l'attente du jour définitif, annoncé par les prophètes. Donc il y a donc dans le dimanche à la fois la mémoire de la mort du Christ, qui est aussi une œuvre de salut, de sa résurrection et l'attente de sa venue dans la gloire. Et dans chaque Eucharistie catholique au moins, eh bien nous avons ces mots après la consécration. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Et ces trois aspects-là. Et ça résume bien ce qui est au cœur du dimanche, ces trois choses. Et on peut dire aussi que, d'une certaine manière, le dimanche ne supprime pas le sabbat et ses significations, mais lui apporte des significations nouvelles. Et je connais au moins dans le monde protestant, au moins une confession qui a vraiment réhabilité le sabbat et en a fait son jour festif. En fait, il ne parle pas du dimanche. Ce sont les adventistes que j'ai beaucoup côtoyés, moi, dans mon ministère dans Genevois, et qui se disent tenus par l'obligation du sabbat, parce que ça fait partie des 10 paroles données par Dieu à Moïse. Donc, pour eux, voilà, ils marquent le sabbat, et le dimanche est un jour ordinaire. Bon, ça nous surprend un peu, nous chrétiens, mais nous catholiques au moins. Bon, ouais, au moins ils ont pris au sérieux leur racinement du sabbat. Je prends un peu de temps, je vais avancer un peu. Le troisième point que je voulais aborder, c'était est-ce que c'est une obligation enfin, le dimanche, une obligation. Je pense que vous avez bien noté que c'était pour vous, c'est une obligation. Enfin, si on est pratiquant,
c'est mieux.
Voilà. Alors, le dimanche, une obligation, et je me suis servi de cette brochure-là qui a été publiée par la faculté de théologie de Lyon il y a longtemps, en 1975.
C'est toujours une obligation.
Oui, exactement. Oui, mais on a pris nos aises un petit peu avec ça. En tout cas, dans l'Épître aux Hébreux, une des lettres du Nouveau Testament, vers la fin du 1er siècle, on lit ce qui est encore qu'une exhortation, une invitation avec un petit brin de reproche. « Ne désertez pas vos assemblées, comme certains ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement. » Vous voyez, je pense qu'il faut déjà, que c'est important, cette assemblée. Alors, dans la mesure où, dans l'Empire romain, seuls les Juifs disposaient d'un statut leur permettant de se réunir et de s'organiser, il était difficile, plus difficile, parfois dangereux, dans certaines époques, aux chrétiens de se réunir visiblement à un jour fixe, même quand ils devinrent plus nombreux, et où il y avait moins une majorité d'origine juive parmi eux. Ils n'avaient pas de statut comme les juifs en avaient un dans l'Empire romain. Donc, voilà. Là, il va falloir attendre l'édit de l'empereur Constantin, ce qu'on appelle l'édit de Milan, en 321, pour voir accorder la liberté de culte, alors, attention, aux chrétiens, mais aussi aux cultes païens, c'est-à-dire tout le monde. Il n'y avait pas une préférence spéciale pour les chrétiens, mais il est à l'englober dans les cultes. Donc c'était un édit en faveur de liberté religieuse, mais il ne faut pas dire que c'est un édit qui fait du christianisme la religion de l'Empire. Non, c'était admis parmi tous les autres cultes. C'est seulement vers la fin du IVe siècle que le christianisme deviendra, on pourrait dire, religion d'empire, de l'empire. Et puis, c'est Constantin qui va interdire tout travail le dimanche et va consacrer ce jour comme chômage. Alors, ça pouvait peut-être correspondre à d'autres opportunités, mais l'application, en tout cas, ce qu'on note, c'est que ça a pris du temps pour s'appliquer, en tout cas. Puis, une petite anecdote, c'est alors, en France, il y a une loi de 1881 qui abroge le repos du dimanche, qui autorisait de travailler. Et ce repos, il a été remis, rétabli en 1906 seulement. Donc, il y a une petite période où le dimanche, c'est un jour banal. Alors, dans la législation interne de l'Église catholique, ou même l'Église indivise, le plus ancien texte connu, c'est un décret du Concile d'Elvire en Espagne, 306, qui frappe d'une excommunication temporaire le citadin qui n'est pas venu à l'église durant 3 dimanches. Et puis il y a divers conciles provinciaux à partir du XVIe siècle qui légifèrent justement pour dire qu'il y a obligation de participer à la messe du dimanche, s'abstenir de travaux serviles, puis la législation civile a relié ces préceptes, alors je n'en ai mis un, le capitulaire de Charlemagne, voyez, qu'on ne fasse pas de travaux pénibles les jours du Seigneur, que les hommes ne fassent pas de travaux champêtres, que les femmes ne fassent pas de travaux ayant trait aux étoffes, c'est un peu limité, et que partout on se rassemble pour assister à la messe et rendre grâce à Dieu, donc au 8e siècle. Voilà, et puis... voilà, et puis le code de droit canon qui régit l'Église actuelle catholique, mais elle demande de s'abstenir de tous ces travaux et affaires qui empêchent le culte à Dieu, dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur, ou la détente convenable de l'esprit et du corps. Et puis si on ne peut pas se réunir, il est recommandé de s'adonner, si on ne peut pas participer à la messe concrètement, s'adonner à la prière pendant un temps convenable, seul ou en groupe, voire en groupe de famille, voilà ce qui est proposé. Voilà, alors je termine, ben, le vécu actuel du dimanche, ben, tout le monde peut, ceux qui le vivent, la plupart d'entre nous, même sans coloration particulière. Évidemment, plus récemment, avec la sécularisation de la société, le dimanche s'est trouvé englobé dans le week-end. Donc il y a aussi le sabbat qui en fait partie. Puis ça commence déjà dès les trois étoiles du vendredi, le week-end. Donc voilà. Dans les statistiques, ce qu'on appelle les pratiquants, c'est ceux qui vont à la messe régulièrement, une fois par mois à peu près. C'est ça ce qu'on est considéré comme pratiquant. Alors, il reste quand même que chacun le constate, que le dimanche reste un jour particulier, même s'il a perdu pour beaucoup de sa coloration religieuse, disons. Autrefois, évidemment, dans un temps pas si ancien que ça, il y a, disons, 80 ans, c'était le jour où on sortait de beaux habits pour aller à la messe, justement. On mettait des beaux souliers, il y avait un repas un peu plus festif, on pouvait faire des visites, ce qui est bien dit, et puis le fait de participer ensemble à l'assemblée dominicale. Et puis cette assemblée, elle permettait aussi des rencontres, hein, dans les gens, dans les villages, c'est là qu'ils se retrouvaient, les hommes parfois au bistrot après, mais ça fait partie du dimanche. Et puis, sans compter que, au moins dans la liturgie catholique, il y a chaque temps liturgique a un peu sa couleur particulière. Bon, il y a le temps de l'Avent avant Noël, il y a une liturgie un peu particulière. Le carême, c'est encore autre chose. Le temps de Pâques, c'est aussi encore autre chose. Vous voyez, donc, chaque dimanche n'est pas monotone si on est imprégné de la liturgie. Et là, ça, voilà, il fait avancer, quoi. Et puis... il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1950, évidemment, je crois qu'il arrivait que le curé, dans les pays catholiques, on demandait au curé la permission de faire des travaux, des champs, le dimanche, lorsque toute la semaine, ça avait fait mauvais temps. C'est le curé qui, à la fin de la messe, disait aujourd'hui, vous avez le droit d'aller rentrer les foins. Voilà. C'est un autre temps, j'imagine bien. Voilà, j'ai à peu près dit. Alors, c'est vrai que j'ai aussi un autre document là. Je vois que les évêques, par exemple, ils avaient consacré toute une partie de l'Assemblée de Lourdes en 90, justement, à voir comment on peut revitaliser le dimanche. Ils se rendaient bien compte que c'était pas toujours bien vécu. Qui propose, voilà, notamment que les églises restent ouvertes, un temps pour se refaire, le dimanche et le travail. Enfin, ils ont toute une série de réflexions pour faire le point sur la pratique du dimanche. Voilà, j'ai tout dit.
Merci.
Bien. points communs. Il y a beaucoup de points communs.
Oui.
Il y a beaucoup de points communs. Le premier qui me frappe, c'est, que ce soit le samedi ou le dimanche, cette joie retrouvée, cette espérance, cette louange. Et donc, on a un partage en commun. C'est vraiment la joie, quoi. La joie par la vie retrouvée. Alors ça s'exprime parfois par des textes un peu différents, mais on est ressourcé, que ce soit le dimanche pour les chrétiens et le Shabbat le samedi pour le monde juif, c'est un moment où on se ressource. Donc il y a un partage de valeurs et de sentiments, de foi. Mais je n'avais pas pensé à un autre partage, c'est celui de la libération. Parce qu'il me semble, si je n'ai pas déjà tout oublié, que dans le Shabbat, il y a aussi une référence à Moïse, à l'Exode, à sortir de l'esclavage.
La liberté.
Donc il y a un processus de libération. Mais nous l'avons par la résurrection, un peu. C'est-à-dire que pour nous chrétiens, on est libérés de la mort, et on retrouve une vie éternelle, mais on le sent dans une véritable libération totale. Donc, il y a, que ce soit par le judaïsme ou par le christianisme, il y a une invitation à un processus de libération, me semble-t-il, avec la joie, avec l'espérance, et avec l'amour de la vie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez sur tous ces points communs. Bon, merci.
Il y a surtout le fait de pouvoir se couper d'un rythme de vie, et je crois que dans nos deux traditions, d'un rythme de vie qui d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, devient une vraie folie, et que là, on puisse vraiment se ressourcer, effectivement, en ne pensant, en s'intériorisant, en rencontrant des amis, en étant dans la joie. Et c'est d'ailleurs tellement dans la joie qu'il y a aussi une petite histoire très mignonne. On dit que le jour de Shabbat, en tout cas, Dieu réunit des couples, il forme des couples, parce qu'en fait, on se trouve à être ensemble, à être dans la joie. Vous l'avez dit aussi autrement, c'est festif. Et effectivement, ça peut donner des occasions de rencontres. Et c'est surtout sortir de la contrainte du travail, de toutes les tâches, puisqu'on les a nommées, et même les animaux, même les serviteurs, ou on va dire même les aides, c'est ce jour-là, on se pose et on se ressource. Et finalement, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, je sens que lorsque je passe ce jour de Shabbat que je ne fais pas comme ce serait bien de le faire, je me rends compte que je suis plus vulnérable ou plus fatiguée, alors que là, ce temps-là, il est vraiment, vraiment extraordinaire, que ce soit Shabbat ou que ce soit dimanche. Oui.
C'est une libération. Alors,
simplement, j'avais noté sur mon papier, mais je ne l'ai pas dit. Pour ce qui est du dimanche, hein, j'ai l'impression que c'est ni la fin d'une semaine, on pourrait dire comme ça, ni le début d'une autre semaine. C'est un jour vraiment à part.
Une parenthèse.
Et qui féconde l'ensemble, mais on ne peut pas dire que c'est la fin de la semaine, on ne peut pas dire que c'est le début d'une nouvelle semaine.
Pas encore.
Je crois que c'est vrai. Hein.
Ben oui, pas encore, c'est une parenthèse.
Et puis évidemment, il faut éviter le dimanche d'avoir un programme d'enfer, ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire, voilà, prévoir des loisirs à tout casser.
Qui nous casse.
C'est d'ailleurs pour ça que je trouve la notion du week-end, ça paraît un petit peu paradoxal dans cette idée qu'il y a un septième jour, puis après un premier jour, on a l'impression qu'il est englobé dans la fin de la semaine, et non pas comme un comme quelque chose au début d'une nouvelle semaine. Et pour en revenir à l'histoire de la libération, de toute façon, dans notre quand on lit la version du quatrième commandement dans le Deutéronome, il est bien dit, tu feras le Shabbat car ton esclave et ta servante ont droit au repos comme toi, et tu te rappelleras que je t'ai sorti du pays d'Égypte, du pays d'esclavage. Donc il y a bien cette notion de libération,
bien
aussi bien pour soi-même que pour les autres.
Bien sûr, tout à fait.
Oui, alors la question qui se pose, c'est que dans ce commandement, il a dit aussi, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras 7e jour. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que c'est pas un commandement de travailler 6 jours? C'est-à-dire, qu'on doit travailler, si on prend le week-end entier, on ne travaille que 5 jours. Donc, on risque d'être hors du commandement, quoi.
Et encore, on ne parle pas d'horaire. La semaine des 35 heures, ou en 30, ou autrefois des 40, 42 heures, et voire beaucoup plus, et encore aujourd'hui aussi pour certains.
Et puis, on évoquait tout à l'heure aussi la façon de compenser par la personne qui va travailler, enfin qui ne va pas pouvoir travailler, qui ne travaille pas parce qu'elle est retraitée pendant toute la semaine. Est-ce qu'elle ne doit pas travailler le 7e jour pour compenser? Parce que là, on parlait des travaux qu'on fait le dimanche parce qu'on n'a pas pu travailler dans la semaine.
Eh oui.
Et d'ailleurs, chez nous, la question se pose de la même façon. Est-ce qu'il faut faire le Shabbat même si on est au repos toute la semaine?
C'est pas du tout la même optique. On est au repos sans être vraiment au repos, même quand on est retraité. On a d'autres activités. Mais là, il est sûr que c'est une activité particulière, celle du Shabbat ou celle du dimanche, et qui est une parenthèse de vie, même pour des retraités.
Alors, moi, ce que j'aime bien dans les deux aspects, c'est que... Enfin, je retrouve deux aspects, c'est l'aspect à la fois communautaire, et puis quand même rituel et liturgique, d'une façon ou d'une autre. Enfin, dans les deux cas, il y a une forme de rituel. Alors, quand même, nous, en catholicisme, l'obligation, elle porte sur le rassemblement, et non pas forcément sur la liturgie de la messe. Enfin, l'obligation du dimanche, elle porte sur le rassemblement. Alors, évidemment, très souvent c'est ça, mais notre obligation, c'est du rassemblement de la communauté, parce qu'en fait, c'est le corps, le peuple, le corps du Christ qui se réunit, donc c'est important aussi de... Parce que les grosses difficultés qu'on a, on pourrait dire de nos jours, en l'absence de prêtre, ben, il y a moins de messe, donc on a du mal à se réunir. Non, on peut se réunir même sans qu'il y ait prêtre. Mais donc cet aspect communautaire et cet aspect rituel et liturgique qui est réuni est quand même intéressant, et on retrouve dans les deux cas. Et avec, en fait, on plaisantait un peu sur le jour de repos, mais moi j'avais un prof qui m'avait dit, mais en fait c'est une marque de choix, en fait, surtout le choix de s'arrêter, c'est-à-dire inscrire profondément dans son corps qu'on va stopper, en fait, on va faire un choix, ça ne nous est pas imposé. C'est nous qui devons choisir ce temps de rencontre particulier avec Dieu et avec les autres. Et c'est ça qui est... Enfin, dans les deux cas, moi, j'ai entendu... Enfin, voilà. En fait, c'est pas parce qu'on m'oblige à le faire que je vais le faire. C'est bien parce que je dois choisir en permanence de faire ce temps d'arrêt de rencontre avec Dieu et avec mes frères, mes sœurs que je reçois dans ma communauté.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pensais beaucoup au rituel aussi. On s'inscrit dans un rite. Et dans notre société sécularisée, ce qui est très dommage, c'est qu'on est obligé d'inventer des nouveaux rites, d'avoir des nouvelles cérémonies, de nouveaux cérémoniales, comme les mariages laïcs, avec un nouveau rite, parce que le rite n'est plus compris, le rite initial. J'ai beaucoup aimé ces textes que vous nous avez donnés, parce qu'on sent qu'on est inscrit dans un passé, dans une histoire, dans une tradition, et cette tradition nous vient de ce que nous a développé Eliane. Donc je trouve ça magnifique, et en effet, on se retrouve les uns les autres ensemble. Après, j'ai pensé aussi à quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le sens de l'offrande. Dans le Shabbat, il est dit, tu partageras, tu penses à ton prochain. Pense aux pauvres, aux malheureux, etc. Tu aideras la veuve et l'orphelin. Ça, on le voit beaucoup dans tous les textes. Il en est de même dans notre Église. Alors, je voulais poser la question au Père. L'origine de la quête, qui peut choquer certains, qui qui ne viennent qu'une fois de temps en temps assister aux offices. Il faut un panier passé sous leur nez et il faut donner on ne sait pas quoi. Donc cette origine-là, est-ce qu'elle vient justement de cette offrande inscrite dans les textes depuis très longtemps?
Je pense que oui. Alors, on voit bien, Saint Paul, il insiste beaucoup pour... C'est pour marquer la grande communauté, la solidarité avec l'ensemble d'autres communautés, en particulier celles qui seraient plus en difficulté. Pour Saint Paul, c'était l'église de Jérusalem qui était l'église mère, mais qui était un peu en difficulté. Il fallait l'aider. Et puis je pense que, après, le sens qu'on a donné aussi à la quête, c'est on s'unit à l'offrande du Christ, d'une certaine manière. On se donne en donnant quelque chose. Je pense que c'est ça. C'est un autre sens, un peu plus spirituel, peut-être.
Le pasteur.
Il y a une autre dimension, mais celle du repas communautaire. C'est-à-dire que la scène, l'Eucharistie, au départ, était un repas partagé, où chacun était censé amener, les plus riches amenant plus, les plus pauvres amenant ce qu'ils pouvaient, et tout le monde mangeait. On voit bien que l'apôtre Paul râle contre l'Église. Alors, j'ai oublié, ça doit être Corinthe, probablement, c'est sur Corinthe qui fait des âneries. Où les uns sont pifres et ils s'enivrent, tandis que les autres crèvent de faim. Et je pense qu'il y a cette dimension, on met les choses en commun pour le service de la communauté. C'est pour ça que chez nous, normalement, l'offrande précède la scène.
Alors, c'est très différent dans la tradition juive. Il n'y a pas d'argent qui circule à Shabbat. Donc, les offrandes, c'est pas ce mot-là, ce sont des dons. Il y a une chose, par exemple, lorsque quelqu'un va être appelé à la Torah, il va monter à la Bina, il va lire, on va lui proposer, c'est une sorte de bénédiction et aussi un honneur. Et cet honneur, il peut, on va dire, il va permettre de faire un don, mais pas ce jour-là. Il va faire le don à des moments bien précis, qui c'est surtout dans les grandes fêtes que nous allons avoir là. En tout cas, nous, dans notre synagogue libérale, c'est comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, le don va être certainement plus ou moins important, selon, il n'est pas obligatoire. Mais en principe, les participants donnent toujours. Et à ce moment-là, c'est pour toute l'année. Et c'est vrai que c'est une aide énorme pour faire, pour aider la synagogue, pour aider à beaucoup de choses, et pas forcément à d'autres synagogues, ça je ne sais pas, puisqu'elles ont toutes ce système-là. Mais il n'y a pas de quête comme il y a au temple, comme j'ai pu voir aussi, puisqu'il n'y a pas de circulation d'argent.
Moi, je suis contente de pouvoir parler de ce sujet, parce que je pense, personnellement, que la quête, c'est un peu une déviation de l'origine, parce que l'origine, c'est quand même bel et bien le partage. Et on le voit dans les textes depuis le début du christianisme, c'est un repas partagé. Alors, il y a peut-être des plus riches qui apportent plus que des plus pauvres, mais ce n'est pas de l'argent, c'est de la nourriture. Et l'aspect convivial me semble alors capital. Et je trouve qu'on a perdu, hélas, beaucoup de sens de l'origine de nos rites, en tout cas chez les catholiques, je ne veux pas généraliser. On ne sait plus d'où ça vient. Ce n'est pas de l'argent. En fait, c'est un repas convivial comme au début. Et chacun donne ce qu'il peut. Et ce n'est pas important de donner plus ou moins. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait de quoi faire. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on retourne à ça. Alors peut-être qu'après, pour simplifier, on s'est dit, chacun donne de l'argent et puis on partage. Mais celui qui ne vient jamais à la messe et qui voit qu'on donne de l'argent, comment voulez-vous qu'il comprenne ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut retourner à ça, et c'est dans toutes les religions, puisque chez les musulmans, il y a aussi l'aumône, le partage de la nourriture, etc. Et finalement, et bien c'est beau, et il faut aussi retrouver ce qui peut nous unir, parce que si on a oublié, il faut revenir aux sources.
Bien sûr.
Simplement, dans le texte que je vous ai remis là, Justin Il dit là, donc au cours de l'Eucharistie, hein, donc après qu'on ait distribué les choses consacrées, alors je pense à partager du pain consacré, après ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent librement chacun ce qu'il veut. Et ce qui est recueilli est remis à celui qui préside, et il assiste les orphelins, les veuves, les malades, les indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers. En un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, là, il y a le partage eucharistique, le partage libre pour aider ceux qui ont besoin.
Alors, juste avant, j'ai oublié, je m'en excuse, nous avons notre secrétaire, hein, aussi, qui fait partie du bureau, Patricia Sander, et elle a eu un accident, elle a fait une très mauvaise chute, et je n'ai pas parlé, j'aurais dû dire au tout début, Patricia qui souvent se veille ici et qui m'aide beaucoup pour la circulation du micro.
J'avais l'intention de dire tout à la fin.
Elle n'a pas pu venir parce qu'elle boite encore et j'espère qu'on la retrouvera en novembre. J'espère qu'on la retrouvera en novembre. Voilà, excusez-moi pour cet aparté parce que j'avais oublié d'excuser Patricia, sinon évidemment elle serait venue. Bien, je passe à un autre pasteur, le micro.
Merci. Oui, vous avez souhaité que d'autres églises chrétiennes puissent s'exprimer, et donc, en tant que pasteur également. Et vous avez parlé également de l'église adventiste du septième jour, dont je suis pasteur. Enfin, retraité maintenant, mais dont je suis pasteur. Et je pense là, dans ce cadre, que l'Église adventiste peut être un tout petit lien judéo-chrétien.
Et pourquoi ?
Alors, je vais l'expliquer, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses que dites d'un côté de l'autre, hein, avec création, révélation, rédemption, le souvenir de la création, souvenir. L'opération, ça a été dit.
Dites bien votre micro.
Côté également l'attitude de Jésus dans les évangiles que vous avez rappelés. Jésus qui. C'était son habitude de rentrer dans la synagogue le jour du.
Bien sûr, c'était juif.
Donc, ce jour de repos, c'est tout d'abord dès le départ. C'est le rappel de la création. Les textes ont été cités par vous deux dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. À qui l'a-t-il dit ? Excusez-moi, mais est-ce qu'il l'a dit au peuple juif à ce moment-là ?
Vous parlez de qui ?
Ben non.
Vous parlez de Dieu ?
Le peuple juif est apparu très très longtemps après. Il l'a dit à Adam et Ève. Dieu a institué le jour du repos dès la création. Donc pour c'est logique, pas pour un peuple particulier, mais pour toute l'humanité.
Oui, on peut.
Après, ça va être rappelé par rapport au peuple juif, mais le sabbat, c'est pour toute l'humanité. Pas pour un peuple, simplement pour un peuple particulier. C'est la première chose. Deuxième, vous l'avez rappelé, samedi, c'est sabbati dies, jour du sabbat, et que le dimanche, enfin, que le jour de la résurrection de Jésus dans la Bible, c'est le premier jour de la semaine. Vous l'avez rappelé. Vous l'avez ici pas écrit dans le texte. Ce montre bien que le sabbat reste le samedi et non pas le premier jour de la semaine. Dieu demande qu'on observe le septième jour de la semaine. Nous l'avons encore dans le décalogue. Et bien, le décalogue, voilà. Même si ça a été donné par Dieu à Moïse,
c'est ça que je
pour
dire.
Tout les églises chrétiennes, le décalogue est toujours en vigueur. Et les 10 commandements sont en vigueur. Le 4e aussi, qui stipule d'observer le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat. Et dans le Nouveau Testament, nulle part, il n'est dit qu'il ne faut plus observer le septième jour de la semaine de sabbat et qu'il faut observer le premier jour. Il y a des mentions certaines où ils se réunissent le premier jour de la semaine, mais ce n'est pas la généralité. Donc, pour nous, le septième jour de la semaine, celui que Dieu a demandé qu'on observe dès la création, est valable encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'Église adventiste du septième jour, justement, observe toujours, parce que c'est la seule raison biblique. Il n'y a pas de raison biblique d'observer un autre jour. Donc, c'est la raison pour laquelle nous observons comme jour de repos le septième jour de la semaine. Je voudrais rajouter une autre chose. J'ai dit des points qui sont un peu différents, mais il y a beaucoup de choses, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Mais c'est simplement pour souligner certains points différents. C'est que le jour du Seigneur dans la Bible, c'est ni le samedi ni le dimanche. Le jour du Seigneur dans la Bible, vous donnez 15-20 références, et dans le Nouveau Testament, c'est le jour du retour du Christ, le jour du Seigneur. C'est l'équivalent du grand jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Donc le jour du Seigneur, je puis vous assurer, bibliquement parlant, c'est le jour du retour du Christ, ce qui fait que dans l'Apocalypse, quand il dit « Je suis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur », tout l'Apocalypse est dirigé vers le retour de Jésus, vers la fin du monde. Donc on peut le comprendre de façon différente. Je suis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, par l'Esprit il est transporté au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour final, au jour du retour du Christ. Ou on peut le comprendre que c'est le jour du Seigneur, éventuellement le dimanche, que ça s'est réalisé. Mais dans l'optique, c'est par rapport au retour de Jésus. Voilà certains points, simplement toute fraternité. Et pour compléter ce qui a été dit, en tout cas, c'est vrai que le jour du repos, c'est un bienfait. Un bienfait, un cadeau que Dieu nous donne. Un bienfait physique, ça arrête de travailler. Un bienfait psychique, parce qu'il n'y a plus la préoccupation du travail, etc., etc. Un bienfait spirituel, parce qu'effectivement, c'est rencontrer le Seigneur, c'est un jour de sainte convocation, n'est-ce pas? Ce jour-là, donc un jour de rassemblement du peuple de Dieu, donc un bienfait au point de vue fraternel, au point de vue spirituel, et puis un bienfait social, puisque même le serviteur, à l'époque les esclaves et les serviteurs aujourd'hui, les ouvriers, ont droit eux aussi au repos, et même les animaux, comme vous l'avez souligné, puisque les animaux servaient beaucoup pour le travail à l'époque. Voilà. Donc peut-être ça peut faire ce petit lien judéo-chrétien.
Alors, nous aimerions rebondir, nous aimerions tous les deux rebondir quand même pour les questions, c'est bien, tant mieux, super. Vous avez parlé, et là, par rapport au Shabbat, et que effectivement, vous l'avez nommé dans le Deutéronome, et c'est vrai, dans la loi, dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, Devarim, et non pas commandements, dans les 10 paroles, effectivement, même la première parole, c'est « Tu observeras le Shabbat », c'est très très important. Oui, c'était pour le peuple hébreu, c'était Moïse qui recevait effectivement les tables de la loi. Pourquoi il y a eu cette scission ? Je voulais le dire tout à l'heure et je voulais en parler, je voulais parler de Constantin. Il y a eu une scission terrible. Il y avait d'abord Marcion avant, qui a lutté contre le peuple juif, qui déjà ne voulait plus d'une existence de ce peuple juif avec ses rituels. Et puis il y a eu surtout Constantin. À partir de l'instant où il a changé, où il a été comme baptisé, je crois. Même pas. En tout cas, il a vraiment fait une scission incroyable, considérant que Et c'est sûr que c'est quand même 3 siècles après la destruction du temple, après la diaspora du monde juif, après 70, donc bien après Jésus aussi. Il a considéré à ce moment-là qu'il fallait qu'il n'y ait plus qu'une seule religion et qu'à ce moment-là, les Juifs disparaissent. Et ça, ça a été terrible. Alors, des Juifs sont restés, toujours, 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 et ont gardé le Shabbat, et le Shabbat les a gardés. Et puis, les autres Juifs qui s'étaient, effectivement, qui étaient des judéo-chrétiens, qui étaient des Juifs messianiques, comme on dit aujourd'hui, il y a des Juifs messianiques, des Juifs qui croient, qui continuent à être profondément juifs et qui croient aussi à Jésus et qui prient Jésus. Et j'en connais, j'en ai connu, et à Genève, il y a une communauté importante. Et il est vrai qu'il y a eu cette séparation. Elle a été brutale, les Juifs ont été même persécutés, ont été à nouveau dispersés, et à ce moment-là, il a instauré un autre jour pour vraiment fixer quelque chose qui n'était plus de l'ordre, effectivement, de la loi de Dieu qui avait été donnée. Tout à fait. Voilà une explication que moi je connais, il y en a peut-être d'autres.
Je voulais demander à un pasteur adventiste quand est-ce que vous fêtez la résurrection? C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette note-là dans le sabbat que vous fêtez, le sabbat. Non, c'est une question, je m'interroge. C'est-à-dire que votre...
Comment Jésus a-t-il demandé qu'on se remémore sa mort et sa résurrection?
Oui, bah, c'est bah, autrement.
Bah, l'Eucharistie ou la Sainte Cène.
D'accord. Bien, oui.
Et ceci est mon corps qui est rompu pour vous, ceci est mon sang qui est rompu pour vous. Et la résurrection du Christ est très importante puisque elle est le gage de la résurrection finale des croyants, des rachetés. Il a vaincu la mort et il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, la mort et la résurrection du Christ sont les deux piliers de... La mort et la résurrection du Christ sont les deux piliers du christianisme. Absolument.
Voilà. Donc, c'est bien présent aussi dans votre manière de célébrer le sabbat, le samedi. J'étais content de vous entendre parce que, ayant vécu souvent avec des adventistes là-bas, par amitié, on n'avait jamais trop échangé sur ce sujet qui me paraissait un petit peu brûlant. Et de fait, c'est bien de vous entendre sur ce sujet. Parce que c'est quand même assez rare que des chrétiens ne marquent pas le dimanche, je peux dire. Voilà, ça existe. La preuve, vous êtes là.
Peut-être un dernier point, excusez-moi, que des chrétiens, un dernier point, par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite, donc c'est que finalement, le changement du jour du repos, au-delà de Constantin, effectivement, c'était avec les conciles, mais c'est avec la papauté.
Ah oui, aussi.
C'est avec la papauté. Or, le monde protestant ne reconnaît pas l'autorité de la papauté. Et donc, pour nous, c'est une autorité humaine qui a changé le jour du repos du samedi au dimanche.
Oui,
pour nous, l'autorité de Dieu est supérieure à l'autorité
humaine. Oui, c'est vrai, c'est ça.
Bien. Oui ? Encore faire circuler. Hein.
Oui, Eliane a dit Shabbat, gardien d'Israël, et non Israël, gardien du Shabbat. Et le Père Alain, le Seigneur a dit le sabbat n'est pas. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat fait pour l'homme. C'est ça?
Oui, c'est presque l'inverse. C'est Jésus.
Non, mais j'ai pensé pendant que vous parliez. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez tous les deux. C'est trop long.
Non. Non, non.
Ça paraît presque légitime à partir de l'instant où on continue à pratiquer, à faire ce Shabbat. Il nous permet de rester qui nous sommes, il améliore même parce que nos connaissances, parce que c'est aussi un moment où on étudie beaucoup. On lit chaque paracha, chaque section de Torah, on va l'étudier, même justement ce jour-là, c'est pas un travail là, c'est un plaisir, mais on peut aussi l'étudier un peu avant pour savoir dans quel Shabbat on va rentrer, qu'est-ce que ces mots veulent nous dire. Qu'est-ce que les paroles prononcées dans, ou en tout cas écrites, dans la Torah veulent nous dire? Quel sens de la vie? On cherche tout ça, vous aussi certainement, bien sûr, mais on le cherche profondément dans le monde juif, et surtout, vous savez, à travers les lettres, à travers les mots en hébreu, qui veulent dire tout et le contraire parfois, et qui nous donne surtout des pistes de réflexion incroyables. Alors on reste qui nous sommes, on se prolonge même, on prolonge nos jours, c'est ce qui est dit aussi, en étudiant, et particulièrement le jour du Shabbat. Donc à la fois on va être le gardien du Shabbat, on va le garder, et puis en même temps, lui aussi il va nous garder. Puisque si on le pratique, on est bien à tout niveau. Puisque ça, je l'ai expliqué, et vous aussi le dimanche, si vous pratiquiez ou si vous pratiquez, vous sentirez que vous êtes bien. Mais nous, l'étude, elle est énorme. C'est prière et étude. C'est énorme. Et l'étude, avec tout ce que ça concerne, hein, ce fameux pile-poule où il y a des discussions incroyables, on n'est pas d'accord. On ne se dispute pas, on discute vraiment de ce que ça peut nous apporter, quel est le sens de notre vie. Et oui, et ça c'est vraiment important. Donc voilà ce que donne le Shabbat. Moi je pense que le dimanche, ça devrait être pareil.
C'est pareil.
Je donne. C'est pareil, sans doute. Patrick.
C'est vrai que nous...
Alors, il y a une question pourquoi que je voudrais savoir, mais je ne me rappelle plus la réponse. Donc peut-être que tu te rappelles. Pourquoi on ne porte pas les téfilines le jour de Shabbat?
Alors, c'est le soir. Ah non, on ne les porte pas. Non, je ne sais pas dire ça. C'est très masculin. Parce qu'à la limite, les femmes n'avaient pas le droit de porter tout ça, ne montaient pas à la Torah. Bon, c'est vrai que moi, je suis une femme libérale, je veux dire, au niveau de ma communauté, donc je mets un talit. Alors après, effectivement, le Shabbat, on porte le talit, mais on ne met pas les téfilines, c'est-à-dire cette boîte, et puis c'est les phylactères. Et c'est vrai que, alors je ne saurais pas dire pourquoi, c'est toi qui dois savoir, parce que tu es un homme. Et alors, est-ce que parce qu'il ne faut pas porter, est-ce que ce serait, je ne crois pas, je ne pense pas, parce qu'on ne porte pas ce jour-là. On ne doit faire aucun effort, on doit être vraiment dans une libération, une liberté. Je ne pense pas, puisqu'on a le talit quand même sur nos épaules, c'est-à-dire le châle de prière. Donc, et c'est vrai, effectivement. Alors, je ne me suis même jamais posé la question, puisque ça ne me concerne pas. Maintenant, il y a quand même... est-ce que Delphine Horviller, je l'ai vue, ou une autre femme rabbin qui l'avait mis, Danielle Touati à Lyon, qui est aussi une femme rabbin libérale, je crois qu'elle avait mis les téfilines. Non. Un autre jour de prière. Je ne sais pas répondre à cette question. On va regarder, hein. Faut qu'on regarde, qu'on trouve ça. On va demander à l'intelligence artificielle. Non, on demandera à notre rabbin. Ah, c'est mieux. Je vous en prie.
Souvent, on a aussi l'image de pratiquants, disons, radicaux du sabbat qui ne touchent pas une...
Ah oui.
Qui ne touche pas
oui.
un
bouton l'ascenseur, l'électricité, le feu. Alors... Il est sûr que si nous rentrions dans les détails des pratiquants, et oui, qui respectent absolument le Shabbat, on va dire presque à la lettre, et oui, nous n'allumons pas le feu, donc, des temps anciens, donc on n'allume pas l'électricité, qui est considérée comme, donc on ne peut pas prendre l'ascenseur, donc pour la cuisine, elle est faite la veille, et elle est mijotée, vraiment au minimum, pour qu'il y ait quand même des choses chaudes le lendemain. Et beaucoup de gens encore respectent cela. Il y a des contraintes énormes. On ne doit pas porter. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contraintes qui paraissent aujourd'hui... je ne vais pas dire que c'est désuet. Je ne me permettrai pas du tout, parce que chacun va faire ce qu'il sent qu'il est bon de faire dans le respect de ce qui est dit. Est-ce que ces choses-là ont été rajouter au fur et à mesure pour encore plus personnifier ce jour-là, parce que ce n'est peut-être pas marqué dans la Torah. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Talmud, dans la Torah, il y a quand même beaucoup d'explications. Je ne vous ai pas dit tout ça et je n'allais pas faire. On avait notre demi-heure pour parler, j'ai généralisé. Et ces choses-là, moi je ne les connais pas à ce point puisque je ne les pratique pas. Je n'ai pas vu mes parents les pratiquer non plus, ces choses aussi délicates, mais nous avions alors... Et c'est là que moi, ce soir, j'aurais dit pour les excuser, excusez-moi, du coup, je fais un aparté, c'est d'abord Jean-Claude qui aurait pu et qui s'excuse, il a été opéré, c'est Gérard qui aurait pu, mais ce soir, il est à une sépulture, c'est-à-dire un Shiva, c'est-à-dire 7 jours où il est allé à Genève pour... quelqu'un qui est décédé dans la communauté où nous sommes, Gérard et moi, au guide. Donc il n'a pas pu venir et il s'en excuse, mais ça je l'aurais dit à la fin. Mais c'est eux qui auraient pu peut-être dire plus de choses concernant, peut-être, ces rituels plus qui sont importants pour ceux qui ont besoin de les pratiquer. On ne portera même pas le livre de prière, il va rester à la synagogue du vendredi soir au samedi. Sont des contraintes matérielles, mais c'est, par exemple, on ne prend pas la voiture. Ben non. Mais quand on a une synagogue qui est loin, on fait comment? Eh bien, des rabbins stricts vont vous dire, vous ne venez pas. Moi, je trouve ça fort dommage, parce qu'on va perdre toute l'assemblée, on va perdre la communauté, tout ça parce qu'on ne doit pas conduire. Alors, est-ce qu'on a le droit de se faire conduire? Je ne suis même pas sûre. En tout cas, par quelqu'un alors qu'on appelle un Shabbat Goy, c'est-à-dire quelqu'un, un étranger, un non-juif, qui va prendre l'ascenseur avec vous et monter. Non, mais alors après, on ne vit pas comme ça, nous. On ne vit pas, mais ça se pourrait, peut-être. Donc, c'est délicat, tout cela, hein. Et bon, voilà. Moi, j'ai toujours pris ma voiture. Nous prenons notre voiture pour aller à Genève. Parce que, bah oui, moi, j'ai envie d'être dans la communauté, mes amis aussi. Voilà. Ou alors, on va la veille. Par exemple, pour les grandes fêtes, je ne sais pas si vous vous souvenez de Samuel. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Et notre ami Samuel, qui était pratiquant, fervent. Oui, mais pas non plus. Bon, c'était extraordinaire, parce qu'à Shabbat, au Shabbat, je ne sais pas, il était à Annecy, donc il allait à pied. Mais quand il allait sur Genève, à ce moment-là, il prenait un hôtel pour les grandes fêtes, hein, c'est-à-dire Kippour et Rosh Hashanah et Kippour, et pour ne pas avoir effectivement à se transporter. C'est formidable, parce qu'il... À ce moment-là, il était uniquement dans la présence de ce qu'il vivait profondément. Et ça, je le comprends. Moi, parfois, j'aimerais avoir une synagogue qui me plaise, qui m'aille bien, tout près de chez moi, pour y aller tranquillement à pied, réfléchir pendant que je marche, parce que la marche, c'est formidable. Ben voilà, j'ai pas ça. Puis vous savez bien, on dit un juif, 3 synagogues. Il y a une synagogue où jamais j'y mettrai les pieds, Il y a une synagogue, j'y vais de temps en temps, puis il y a l'autre, ah bah oui, c'est ma synagogue. Ce sont les petites blagues, mais voilà. Alors justement, à propos du nouvel an, bah, je vais quelque part faire l'annonce, parce qu'effectivement, on va avoir nos fêtes qui sont là, lundi. C'est lundi soir, il fut un soir, vous l'avez bien dit, il fut un soir, il fut un matin. Donc, dès lundi soir, nous commençons Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année, c'est-à-dire le nouvel an juif, 5786, qui correspond à 2026, puisqu'on est en avance sur le décalage par rapport au calendrier. Donc, les 23 mardis et les 24 mercredis, ça c'est notre nouvel an. Ensuite, 10 jours après, où il y aura pendant 10 jours vraiment une introspection que nous avons à faire, il y aura des prières particulières, même tous les jours que l'on fait chez soi, pour repenser aussi ce que l'on a vécu dans l'année. Mais tout ça, ça sera expliqué par le rabbin Eric Ackerman, qui viendra le 5 novembre, c'est-à-dire là, dans le mois prochain, pour le sens des fêtes. Et il expliquera tout ça. Et donc ce qui pour, 10 jours après, sera le 1er octobre au soir, où là, on commencera à jeûner dès le coucher du soleil, et pendant 25 heures, c'est-à-dire jusqu'au lendemain, ce sera le 2 octobre, où nous avons toute la journée de jeûne et où nous reprenons une alimentation à partir du coucher à nouveau du soleil, voire lever des étoiles, où il y aura ce moment de fin de grande fête de ces 10 jours très très importants, où même, dit-on toujours, des juifs qui ne sont même pas vraiment religieux, qui ne vont jamais à la synagogue, à Kippour, ils viennent et ils jeûnent. On les appelle les juifs de Kippour. Eh oui. Donc je vous ai fait cette annonce pour le 5 novembre. Merci d'être là et puis dire aux amis de venir. Parce que je pense que c'est important. Et ce Eric, vous le connaissez, il est déjà venu, monsieur Ackerman. Il est à la grande synagogue de Genève. Et maintenant, il est rabbin. Avant, il était chazan, c'est-à-dire il faisait l'office et il était dans le chant. Mais maintenant, il est dans le chant parce qu'un rabbin, ça chante. Et il est rabbin, oui, effectivement. Il est...
Voilà. Laissez-moi dire que nous avons évoqué donc ces deux journées du sabbat et du jour de repos. Il y a une grande difficulté aujourd'hui, qu'on n'a pas évoqué, c'est le maintien de ces journées dans une société de consommation, dans une société de profit, dans une société qui voit mal les valeurs que ces deux journées représentent pour nous. Il y a quelque chose dans l'évolution même de la société d'aujourd'hui qui est quelque chose qui est une alerte pour nous, qui est une alerte pour nous, parce que ces jours dont on a évoqué l'origine, le sens, le partage, la prière, ça, dans la société d'aujourd'hui, il faut se battre pour le conserver.
Ah oui, bien sûr. On a de moins en moins de monde, hein, même nous, au niveau des synagogues, comme il faut le minyan, c'est-à-dire il faut 10 personnes. Alors, dans le monde traditionnel juif, il faut 10 hommes. Ben, je vais vous dire que c'est parfois difficile. Alors, surtout nous, les communautés qui diminuent, notamment Annecy, où il y a de moins en moins de personnes juives, parfois ils ont la difficulté à avoir les 10 hommes. Nous, l'avantage chez les libéraux, c'est hommes et femmes. Puis à Genève, c'est une très grosse communauté. Mais il pouvait arriver certains samedis où, effectivement, avec cette société d'aujourd'hui, les gens prennent le samedi parce qu'ils ont besoin de ce temps pour autre chose. Et il n'y a pas... pour faire Minyan, c'est 10 personnes. C'est pas beaucoup. Et on ne peut pas sortir la Torah s'il n'y a pas les 10 personnes.
C'est aussi quelque chose de très fort, c'est qu'un jour de la semaine, n'importe lequel, un jour de la semaine, tout s'arrête. Alors c'est plus possible aujourd'hui pour des raisons techniques, etc. Mais c'était une façon de dire, vous voyez, le monde ne s'écroule pas.
Au contraire.
Quand on vend, elle n'achète pas. Et c'est amusant de voir que ceux qui prônent l'anti-marché, l'anti-ceci, veulent supprimer toutes les traditions qui sont des garde-fous.
Mais oui, bien sûr.
La question du choix de s'arrêter ou pas. Il y a une question du choix humain, de qu'est-ce que je fais de ma vie et de mon temps. Et c'est un choix de s'arrêter, en fait. Et poser ce choix, il est difficile quand on est sous pression.
Oui.
Et donc, c'est une forme de résistance, en fait, de dire je pose un choix différent, en fait. De pouvoir dire ça, c'est pas si simple que ça. Dans une société sécularisée, c'est peut-être le sens aussi de la pratique religieuse, ou en tout cas des choses à faire redécouvrir, de poser un choix humain, en fait, aussi par rapport à ça.
Ouais. Bien.
Alors, pour moi qui suis en vacances tout le temps, donc dire que je travaille le dimanche, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, c'est pas. Je crois que c'est même pas un choix. C'est quelque chose de. En tout cas pour moi, d'indispensable. Ça ne veut pas dire que je vais au culte tous les dimanches, ok. Mais quoi qu'il se passe, le dimanche a un rythme forcément différent.
Ah oui.
Alors c'est dimanche parce que je n'ai pas été élevé dans une tradition qui faisait Shabbat, donc je ne vais pas changer ma tradition maintenant. Mais que j'aille au culte ou que je n'y aille pas, le dimanche, je m'oblige pas, j'ai un rythme différent. Mais c'est aussi parce qu'effectivement, c'est rendre grâce à quelque chose, se rappeler de tout ce qui. Donc de s'inscrire dans mon humanité complète. Quoi.
Bien sûr. Bien sûr. Très bien.
Merci, merci. En tout cas.
Et bonne fête.
Je vais à oui. Vous. Ah, oui,
merci.
Voilà. Donc.